20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez depuis le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Avec le CIC, partenaire fondateur.
Bienvenue au Grand Théâtre de Provence pour ce premier journal du classique depuis donc le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. C'est parti, pourrions-nous dire. Nous allons d'ailleurs passer la soirée ici à Aix, car dans une demi-heure, nous vivrons ensemble en direct le coup d'envoi de l'édition 2024 du Festival avec le concert que donneront Renaud Capuçon et Alexandre Kantorov, un concert d'ailleurs que j'aurai le plaisir de vous présenter. Mais pour l'heure, c'est le journal du classique, enregistré en public, et je remercie le public d'être présent ici ce matin dans le hall du Grand Théâtre de Provence. Et bien sûr, merci à nos deux premières invitées, la pianiste Célimène Daudet et Anna Sigalevitch, journaliste. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Alors, le Festival de Pâques vous a commandé un spectacle pour enfants consacré à Mozart dans le cadre des différents rendez-vous qui sont regroupés sous le label Musique en Partage. C'est l'autre volet important de ce festival. Le titre de ce spectacle, Mozart et nous, fantaisie radiophonique. Le but, c'est faire découvrir Mozart aux enfants, alors a priori les enfants à partir de 8 ans. Et dans votre feuille de route, d'une certaine façon, il est écrit « Faire apparaître un Mozart bien vivant, loin du mythe et des clichés qui l'entourent ». Alors, ça mérite quelques explications. Qui se lance? Célimène Daudet.
Oui, je peux me lancer. Ah bah, c'est un vaste programme. Hein.
Oui.
Mais alors, c'est vrai que la personnalité
vous
de Mozart...
Vous avez une demi-heure.
Alors, prenons le temps. Alors, Mozart, vraiment, on s'est dit, il est proche de nous encore, de par toutes les émotions qu'il véhicule, tout ce que ça nous raconte, à quel point ça nous touche. Et donc, ce qu'on voulait, c'était vraiment essayer de parler de ce compositeur à travers sa musique, mais aussi en mots, et d'essayer de vraiment de s'attacher, en tout cas le plus possible, à ce que ça nous fait ressentir.
Alors qu'est-ce justement, qu'est-ce qui vous touche, Célimène Daudet, chez Mozart?
Alors, moi, énormément de choses, mais ouais. Ce qui me touche, c'est d'abord la pureté de sa musique, et aussi l'humanité de sa musique. C'est-à-dire qu'on identifie de manière assez évidente et assez claire les sentiments qui sont véhiculés, qui vont évidemment du drame à l'allégresse, à la joie, à l'enthousiasme, à l'espoir. Enfin, voilà, tous ces sentiments qu'on peut tous ressentir en tant qu'être humain et qui sont universels et intemporels, traversent la musique de Mozart et dans tout son répertoire, en fait. Et sa personnalité est d'une richesse incroyable, sa vie est totalement romanesque, et voilà, c'est ça qu'on essaye de mettre en valeur dans ce spectacle.
Alors, vous avez une autre approche, forcément, Anna Sigalevitch, vous êtes journaliste, auteur, oui. C'est vous qui avez écrit le texte. A priori, on sera dans un studio, c'est ça, de radio, et vous allez interviewer.
Voilà. Alors je peux pas dire que je sois vraiment la seule autrice du texte, c'est vraiment un
co-auteur.
Texte on a imaginé ensemble, on a vraiment construit toute la trame ensemble, donc c'est vraiment
vous
une
rendez
écriture...
à Célimène ce qui appartient à
Célimène. Oui, c'est une écriture à quatre mains. Oui.
Bon, en tout cas, mais vous avez une autre approche, parce que là, ce que vous avez dit, Célimène Daudet, c'est aussi l'instrumentiste que vous êtes, l'artiste que vous êtes. Et vous, quelle est votre approche de Mozart? Qu'est-ce qui vous touche chez Mozart?
C'est une approche sensible avant tout. Je pense que c'est vraiment le compositeur que j'aime écouter dans toutes circonstances, dans toutes... Qui accompagne chaque moment de la vie, du matin au soir, de la joie à la tristesse extrême. Moi, je pense que c'est peut-être le compositeur qui me va directement le plus au cœur et qui me remplit le plus. Je pensais à une chose, vous voyez, j'ai eu un bébé il n'y a pas très longtemps, et la première chose que je lui ai fait entendre en sortant de la maternité, c'est un concerto de Mozart, en fait.
Alors, comment il a réagi? C'est important, ça.
Ah, il a beaucoup aimé.
Ah, oui.
Il était très sensible, il a battu la mesure. Ah, oui, concerto pour piano. Ouais. C'est vrai que, voilà, je pense que les concertos pour piano sont en plus particulièrement intéressants chez Mozart. Hein, comme vous savez, on dit que c'est un petit peu son journal intime, sa façon d'expérimenter en musique l'évolution de sa vie et de son écriture. Et les concertos de Mozart, mais les sonates aussi, enfin tout, les opéras.
Donc, vous allez lui faire écouter tout Mozart, en fait, d'ici son adolescence, non?
Peut-être.
Il y aura quatre dates, on va donner les dates. Donc déjà demain, samedi, au Théâtre du Jeu de Paume à Aix, à 18h. Lundi, le 25, à Brignoles, dans le Var. Mardi 26, à Mouhans-Sartoux, c'est dans les Alpes de Haute-Provence, et puis le 27 à Marseille, au Théâtre des Bernardines. Alors racontez-nous un petit peu, on disait, la scène est transformée en studio, c'est ça? Et ensuite?
Alors la scène est transformée en studio, donc on est toutes les deux vraiment comme si on était juste avant une émission. Donc au début on accueille les enfants, on leur explique comment ça va se passer, parce que l'idée c'est certes bien sûr avant tout de faire entendre de la musique et de faire ressentir Mozart, mais c'est aussi de faire découvrir le métier de journaliste avec le principe de la lumière rouge qu'on voit ici, on peut parler, ne pas parler, etc. Enfin le dispositif vraiment d'une émission de radio et le métier de journaliste avec les différents type de journaliste, est-ce que c'est qu'être un journaliste culturel, comment s'adresser aux artistes, tout ça. Et puis ensuite, de façon un petit peu radicale, peut-être n'exagérons pas, mais en tout cas de façon volontaire, le spectacle décolle vraiment avec un grand morceau de musique. Céline, je te laisse peut-être...
Oui, alors...
Bravo pour la transition.
Elle est journaliste. Donc, je démarre réellement le spectacle en musique avec la fantaisie en ré mineur de Mozart, qui est bien connue, et qui permet, comme ça, en 6 ou 7 minutes, de traverser un nombre d'émotions extrêmes et vraiment infinies. Et c'est vrai qu'on tenait, toutes les deux, à proposer ce temps d'écoute aux enfants, qui puissent se concentrer aussi sur la musique, se concentrer, et c'est ce que je leur propose juste avant de jouer, se concentrer sur les émotions qui les traversent tout au long de la pièce, le monde imaginaire qui les habite. Et ensuite, on rentre petit à petit dans différentes facettes de la vie et de la personnalité de Mozart, en alternant musique et interview. Moi, je donne pas mal d'exemples musicaux que j'explique ce que c'est que le mode majeur, le mode mineur, enfin des choses qui peuvent sembler assez simples, mais qui néanmoins permettent en fait aux enfants de vraiment faire le lien entre la musique et puis en tout cas ce qu'on a envie de leur faire.
Et puis on l'entend, c'est vraiment éclairant quand Céline se met au piano et qu'elle explique qu'elle joue un accord mineur puis un accord majeur. On sent que voilà, ça parle tout de suite aux enfants.
Oui, puis il y a toujours la magie aussi d'entendre la musique qui se fait comme ça. Devant le public. Alors on va écouter un premier extrait. Alors, j'ai pas pris la fantaisie, désolé, mais une œuvre qui est quand même assez connue, c'est la Marche turque. C'est la sonate numéro 11 et qui fait partie donc des musiques que vous jouez. C'est Murray Peraya. Ça vous va?
Bon, bah,
très bien.
Oui.
Alors, on écoute cette Marche turque Mozart.
Thank you.
Mozart, l'un des tubes de Mozart, pourrait-on dire, c'est la marche turque. Murray Peraya, pour illustrer ce spectacle Mozart et nous, fantaisie radiophonique à Aix-en-Provence dans le cadre du Festival de Pâques et de musique en partage avec nos invités, Célimène Daudet et Anna Sigalevitch, qui signent ce spectacle. Donc la première sera donnée demain samedi au Théâtre du Jeu de Paume à Aix à 18h. Alors Célimène Daudet et Anna Sigalevitch, on savait partie des musiques que vous jouez, vous, Célimène, et là, il y a une petite interaction avec les enfants. Racontez-nous.
Oui, alors, on propose aux enfants une sorte de petit jardin de la critique où je jouerai de trois manières différentes cette marche turque.
Alors, c'est-à-dire trois manières différentes?
Trois interprétations différentes, radicalement différentes. Ouais. Donc, je me substitue à trois... Enfin, je joue le rôle de trois pianistes à ce moment-là, de manière à leur faire entendre ce que c'est que de différentes interprétations, comment on construit une interprétation et comment une autre interprétation est différente de la première et de la seconde. Et ensuite, à la toute fin de cette séquence, on leur propose une version participative de la marche turque dans laquelle à laquelle ils prennent part, aussi bien par des percussions corporelles, ce qu'on appelle le body clapping, et puis aussi des petits moments de chant qu'on leur propose, on les fait répéter avant, et puis ensuite ça sert de générique de fin à notre émission Fantaisie Radiophonique.
Bon, c'est pas la fin du journal du classique, je vous rassure, c'est pas le générique de fin.
Il y a aussi l'idée avec ça de rendre Mozart bien vivant, que ce soit pas muséal, qu'on se rende compte que eux se rendent compte qu'ils peuvent s'amuser, qu'ils peuvent participer
et s'approprier
exactement cette musique.
Alors pourquoi justement cette participation sur cette marche turque? Parce qu'elle est connue, c'est une mélodie qu'on retient facilement.
Alors elle est connue, mais pas de tous finalement, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui font pas de musique c'est le but de ce spectacle, c'est aussi de s'adresser et surtout à ceux qui n'ont pas l'habitude d'entendre ou de jouer de la musique. Donc, mais elle est aussi rythmique, donc elle permet aussi de. Enfin voilà, elle a un rythme très identifiable. Elle raconte toute une histoire de l'invasion des Turcs à Vienne, etc. Donc c'est aussi l'occasion de leur raconter quelques anecdotes. Et puis elle est amusante, elle est vraiment amusante à jouer. Et puis ce côté marche, ça permet vraiment de mettre en place des éléments rythmiques, percussifs, qui permettaient d'avoir une petite chorégraphie et une implication de leur part de manière assez facile.
Quelles sont les autres musiques que vous avez sélectionnées? Comment s'est fait le choix d'ailleurs Alors déjà, dites-nous un petit peu pour les musiques et vous nous expliquerez après comment vous avez choisi, parce que l'œuvre de Mozart, évidemment, il y a du répertoire.
Il y a du répertoire, tout à fait. Alors, on s'est quand même pas mal concentré, bien sûr, sur l'œuvre pour piano, comme Célimène est pianiste et qu'on est toutes les deux en scène. Donc il y a cette fantaisie en ré mineur au début. Et puis après, en fait, ça se déroule... justement par nos prismes à l'une et l'autre. Donc Célimène joue une sonate qui est la sonate par laquelle elle a découvert Mozart enfant, et ça permet de parler de plein de choses différentes. Ensuite on parle quand même un petit peu des autres formations, que ce soit donc qu'est-ce que c'est qu'un opéra, donc là c'est l'air de la reine de la nuit, un concerto.
Il y a des transcriptions d'opéra, vous auriez pu, non? Vous l'avez pas fait, non?
Alors
non.
On aurait pu, c'est vrai, mais c'est aussi
piano,
magique de leur
piano.
Faire entendre l'orchestre et puis la voix,
c'était quand même pour eux aussi intéressant.
Ouais. On termine, donc il y a des musiques enregistrées, c'est
enregistrées, on entend aussi le requiem, parce que je pense que les enfants s'intéressent beaucoup à la mort, c'est une question, et comme Mozart avait un rapport très particulier à la mort, il n'en avait pas peur, il disait toujours que c'était pour lui une amie, qu'elle avait quelque chose de consolant, et si on n'avait pas peur, du coup, on pouvait apprécier la vie différemment. Je lis une toute petite lettre qu'il avait écrite à son père, Léopold, lorsque son père était très malade, et là, ça permet de parler du requiem. En fait, on se rend compte que par la musique, toute sa vie se déroule de façon très naturelle. L'idée n'est pas d'expliquer la musique par la biographie, mais de trouver comme ça des points d'accroche qui permettent de rentrer dans sa vie par sa musique.
Eh bien, on va écouter l'air de la Reine de la Nuit. J'ai choisi la version Nathalie Dessay.
Bon, parfait.
C'est un plaisir, du coup. Merci. Thank you. Nathalie Dessay, je pense que vous l'aurez reconnu, qu'elle fait partie des voix immédiatement reconnaissables. L'air de la nuit, Nathalie Dessay avec les arts florissants. Et William Christie pour parler ce soir sur Radio Classique depuis le Grand Théâtre d'Aix-en-Provence de ce spectacle Mozart et nous, fantaisie radiophonique, que vous animez Célimène Daudet et Anna Sigalevich, qui sont nos deux invités, nos deux premières invités du Journal du Classique. Le coup d'envoi va être donné dans quelques instants avec ce concert Renaud Capuçon et Alexandre Kantorov. Donc la Reine de la Nuit qui fait partie des musiques, on l'a compris, que vous diffusez, parce qu'il y a, vous jouez Célimène Daudet, mais il y a aussi des musiques enregistrées dans ce spectacle. Il sera donné demain au Théâtre du Jeu de Paume à Aix-en-Provence à 18h. Célimène Daudet, je ne vais pas dire que vous êtes la régionale de l'étape.
Pas loin.
Vous êtes née à Aix-en-Provence, ouais, vous êtes chez vous ici.
Oui, je suis chez moi, c'est vrai. Bah, oui. J'y ai passé toute mon enfance, une partie de mon adolescence.
Alors c'est un plaisir de jouer chez soi comme
ça. Ah oui, toujours. Ouais, ouais, ouais. Toujours. Et puis je sais très bien que dans la salle, il y a toujours des vieux amis qui viennent. Voilà,
c'est angoissant ça ou pas? Non, c'est source de plaisir.
Ah non, c'est source de plaisir, c'est très porteur.
C'est très porteur, oui. Vous avez fait vos études musicales ici.
J'ai commencé le piano ici, avec Michel Bourdoncle au conservatoire, qui était à l'époque dans le très bel hôtel de Caumont. Et voilà, j'ai commencé ici. C'est mes premiers pas musicaux se sont faits sous ce soleil.
Bon, vous avez une double origine à Haïti, c'est ça, par votre maman.
Voilà,
tout à fait, voilà, c'est ça. Et c'est, vous défendez justement cette musique haïtienne, parce que vous êtes allé, vous avez découvert Haïti un petit peu sur le tard. Enfant, vous disiez, Haïti était pour moi un pays lointain, c'est ça?
Oui, c'est vrai. Ouais. J'avais pas eu l'occasion de m'y rendre enfant, j'avais des bribes de culture haïtienne à la maison par ma mère, mais j'étais vraiment française dans ma tête. Et puis à un moment donné, à l'âge adulte, j'ai ressenti ce besoin irrépressible de connaître cette partie de moi. Donc j'y suis allée.
Vous aviez quel âge quand vous êtes allée?
Plus de 30 ans, quand j'ai décidé vraiment de... Quand je me suis vraiment intéressée, c'était plus qu'un intérêt d'ailleurs, c'était viscéral. Et puis j'ai créé un festival de piano et surtout j'ai découvert des œuvres, des compositeurs, de nombreux compositeurs haïtiens du 19e et 20e. Une bonne partie du XXe siècle, et c'est des pépites musicales incroyables que j'ai décidé.
Que vous avez enregistré.
Et que j'ai enregistré, une petite partie, parce qu'il y a énormément de répertoires, et surtout, c'est une musique extrêmement. Il y a des pépites, des choses incroyables, d'une sensibilité inouïe, et qui racontent surtout, je trouve, une partie de l'histoire d'Haïti, ce métissage entre culture occidentale, puisqu'il y a toute l'histoire de la colonisation, bien entendu, et aussi culture traditionnelle haïtienne, vaudou, rythme afro-caribéen, etc. Tout ça se mêle. Et ça donne, à mon sens, quelque chose de très singulier et très poétique.
On connaît la situation, évidemment, actuelle, d'Haïti. Ouais. Et vous avez dit aussi, ce qui m'a frappé, c'est après avoir découvert Haïti et son peuple, c'est la fierté du peuple haïtien. Qu'est-ce que ça signifie?
C'est un peuple qui subit sans arrêt les assauts climatiques ou politiques. C'est une situation désastreuse. Malgré tout, les gens sont vraiment debout. Et la culture est pour un moyen d'expression vital. Et donc, tous les Haïtiens, en fait, ont une forme de pratique artistique. Ils chantent, ils dansent, ils écrivent. Il y a une grande tradition d'écriture de poésie en Haïti. Ils font du slam, ils jouent d'un instrument. Enfin, ça fait vraiment partie de leur vie et de leur manière aussi de résister à ce qui leur arrive.
Et vous y allez régulièrement? Vous avez l'occasion d'y retourner?
Il y avait le festival, c'est ça, ces 10 dernières années, mais très peu malheureusement depuis le Covid. Et en ce moment, c'est presque impossible de s'y rendre pour des conditions, parce que les conditions de sécurité ne sont pas réunies du tout.
Vous connaissez Haïti, Anna Sigalevich?
Non, je connais le disque de Célimène, que j'ai beaucoup aimé.
On va en écouter un extrait dans un instant. Merci encore pour la transition, c'est la deuxième fois là, très bien. Alors le compositeur, en l'occurrence, c'est Ludovic Lamotte. Il est né à Port-au-Prince en 1882, décédé à Port-au-Prince en 1953. On l'appelait, Célimène Daudet, on l'appelait le Chopin noir, c'est ça?
Oui, on l'appelait dans les Caraïbes, à l'époque, il était surnommé le Chopin noir parce qu'il était d'abord lui-même pianiste et jouait le répertoire de Chopin dans toute la région caraïbe. Et puis surtout dans son œuvre, enfin dans une grande partie de ses œuvres, on sent l'influence, ou en tout cas l'amour qu'il portait à Chopin à travers un goût pour le bel canto, de belles mélodies extrêmement sensibles et expressives. Et une recherche harmonique aussi très, très fouillée.
Alors c'est un disque que vous avez enregistré en 2019. On va écouter l'une des danses, la danse numéro 4, Ludovic Lamotte. Thank you. Ludovic Lamotte, la danse numéro 4, Célimène Daudet au piano, qui est l'invitée ce soir du Journal du Classique avec Anna Sigalevitch. Cet extrait, donc, Célimène Daudet, de ce disque Haïti, mon amour, que vous avez enregistré en 2019 pour célébrer votre second pays, hein, on va dire, parce que vous êtes par votre maman d'origine haïtienne. On a célébré ce soir Mozart, parce qu'on arrive déjà au terme de ce Journal du Classique. On aurait pu rester encore ensemble. Il y avait beaucoup de choses encore à dire. J'allais dire que c'est quelque chose qui marche, votre association, puisque Célimène Daudet et Anna Sigalevitch, vous allez vous retrouver à Aix-en-Provence l'été prochain, le 24 juillet, au Musée Granet pour un autre festival, les musicales de la Route Cézanne. Là, c'est toujours un peu le même concept, hein, concert-conférence, on va dire. Et là, cette fois, à partir des tableaux qui sont exposés au Musée Granet, un petit mot peut-être de cette... Là aussi, c'est toujours la transmission...
C'est pas adressé directement au jeune public. Là, c'est vraiment tout public. Voilà, et l'idée, c'est de mettre en valeur certains tableaux du musée qui représentent la nature provençale et de les relier à des œuvres musicales et notamment des œuvres qui représentent le paysage et la nature de manière générale, notamment les préludes de Debussy et d'autres œuvres sur lesquelles on va un peu plus s'arrêter.
Voilà, la musique et les autres arts. Exactement. C'est ce que vous allez montrer. Merci à vous deux d'être venus.
Merci beaucoup.
On rappelle les dates donc de ce spectacle Mozart et nous, Fantaisie Radio. Dans le cadre de Musique en Partage. Demain, samedi, au Théâtre du Jeu de Paume, donc à 18h, Aix. Le 25, Brignoles dans le Var, c'est lundi prochain. Mardi, le 26, à Mouans-Sartoux dans les Alpes de Haute-Provence. Et puis le mercredi 27 à Marseille, mercredi prochain, au Théâtre des Bernardines. C'est la fin de ce journal donc du classique. Merci à vous deux. Merci au public d'être venu ici pour l'enregistrement de ce concert. Merci à Lucille Metz et à Mariette Viala pour la réalisation. Rendez-vous demain ici à 13h pour l'enregistrement du prochain Journal du Classique. Je recevrai la violoniste Anna Agafia Egon, qui est l'une des invitées du festival, puisqu'elle jouera sous la direction de Jean-Claude Casadesus le concerto pour violon numéro 2 de Mendelssohn. Et bien sûr, la soirée se poursuit en direct pour vivre ensemble le premier concert du festival dans un instant avec Renaud Capuçon et Alexandre Kantorov.